Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Maïwenn Reynaudon-Kerzero. Vous êtes la rédactrice en chef adjointe du magazine Breton et vous aviez déjà publié Kenavo. Et puis on peut vous lire régulièrement dans ce magazine qui est vraiment très bien fait. Ça, je tenais à le dire, le magazine Breton. Alors, vous venez de publier Plouc. Plouc, des clichés agaçants et des idées reçues sur la Bretagne et les Bretons. C'est vrai qu'il y a des clichés qui sont agaçants. Et c'est vrai qu'il y a des idées reçues sur la Bretagne et les Bretons, comme on peut en avoir parfois sur les Corses. Maïwenn, est-ce que c'est sur la Corse et sur la Bretagne qu'il y a le plus de clichés ou d'idées reçues ?
Alors en tout cas, c'est forcément sur les régions qui ont une forte identité, puisqu'il faut bien qu'il y ait des traits saillants auxquels s'accrocher pour pouvoir produire des clichés. Et je dirais que c'est aussi forcément sur des régions qui, à un moment donné, ont été plus pauvres, plus en retard en matière de développement que les autres, et en tout cas qui ont été victimes de mépris forcément depuis Paris, depuis les élites. Donc c'est vrai que la Bretagne est sans doute très bien placée dans les régions qui sont le plus victime de clichés.
Qu'est-ce qui a fait ce déclic d'écrire ce livre et de travailler sur ce sujet ?
Alors en réalité, moi ça fait déjà plus de 10 ans que je travaille au magazine Breton, et je pense qu'en 10 ans, on a quand même vu un grand changement dans l'image de la Bretagne. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, même si ça allait mieux, il y avait encore quand même cette image de la Bretagne, parfois un peu ringarde, parfois un peu désuète, cette image de Plouc, voilà. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est quand même définitivement en train d'en sortir, c'est-à-dire que de moins en moins de gens ont cette image-là, mais je trouvais bien de quelque part de faire un livre pour clore tout ça, pour pouvoir répondre précisément à tous ces clichés qui nous agacent, à toutes ces idées reçues qui nous agacent, et un peu pour dire voilà, maintenant ça c'est écrit et puis c'est fini, on n'en parle plus, la Bretagne ce n'est plus ça, et regardez ce qu'elle est devenue aujourd'hui.
Ce sont pas des clichés quand même qui datent, on va dire, d'après la guerre ou d'avant la guerre, des années 50 aussi, des années 60?
La plupart sont nés là, effectivement, certains un peu plus tôt encore, hein, parce qu'en fait, l'image de Bécassine, en gros, l'image de la Bretonne un peu plouque, un peu débile, qui n'a même pas de bouche, parce qu'en fait, elle parle une langue qui n'est pas vraiment une langue, qui est un patois, elle est née plutôt fin 19e, hein, quand il y a eu un mouvement d'émigration de masse, vraiment, des Bretons vers les grandes villes, et notamment vers Paris. C'est là que des milliers de Bretons, on parle d'environ 30%, hein, des Bretons qui ont quitté la région, c'est énorme. Un Breton sur trois qui serait parti vers les grandes villes, d'abord vers Nantes, hein, puis ensuite vers Paris. Et là, ils arrivent vraiment, ils sont plus pauvres effectivement que les autres, ils parlent plus mal français, pour beaucoup, ils savent pas très bien lire, et ils occupent les positions sociales les moins valorisées. Et c'est là que naît vraiment ce cliché, la plupart des clichés, le mot plouc même, c'est à ce moment-là qui se diffuse. Donc c'est vraiment à la toute fin du 19e, début 20e. Et effectivement, après, ça revient par vagues, et c'est encore vraiment très valable dans les années 50-60, qui sont le moment où le rattrapage s'opère, c'est-à-dire que d'un point de vue économique, on commence à avoir une agriculture qui est plus productive, des villes qui ont une vraie industrie, etc. Et du côté culturel, on va dire que le rattrapage, il se fait plutôt dans les années 60-70, où là, on commence à revendiquer avec fierté son identité. Et si on revient à Bécassine, il y a ce symbole très fort d'un dessin du graphiste Alain Lecarnec qui dessine une Bécassine qui ouvre grand la bouche cette fois et qui lève le poing. Voilà. Donc il y a eu plusieurs mouvements dans cette histoire de l'image de la Bretagne.
Oui, mais est-ce que c'est pas lié aussi au phénomène de ce que l'on ne connaît pas et au phénomène d'immigration, même si c'est un phénomène d'immigration nationale d'une région à une autre, parce qu'en réalité, ceux qui se déplacent, qui vont chercher du travail ailleurs, pendant très longtemps, c'était ceux qui avaient besoin d'argent. Donc c'était forcément les plus pauvres d'un territoire. Si je fais l'analogie, par exemple, avec les Italiens, il y a toujours eu une noblesse italienne, une bourgeoisie italienne, des riches Italiens. Mais les Italiens qu'on a vu venir travailler en France, c'était forcément ceux qui avaient le plus besoin d'argent, donc on les caricaturait. Je peux faire ce même parallèle, Maïwenn, avec les immigrés maghrébins, comme les Marocains. Les Marocains qu'on a vu venir travailler en France, c'était forcément ceux qui n'avaient rien, qui venaient de leur montagne, etc. Alors que le Maroc a toujours eu une grande bourgeoisie et une noblesse. Est-ce que c'est pas lié aussi à ça?
Bien sûr, on se moque d'abord de ce qu'on considère comme inférieur et de ce qui est différent. Donc effectivement, on s'est moqué de ces Bretons à partir du moment où ils sont venus un petit peu quémander du travail ailleurs. Mais après, ce que je nuancerais par exemple, c'est de dire que à Nantes, donc en Bretagne, on a eu plus tendance à dire que les Bretons, c'était les pauvres du quartier Chantenay, vous voyez, c'était ceux-là les Bretons. Et donc il y avait quand même un mouvement un peu de mépris. Et je dirais que la question de la réunification, cet éternel serpent de mer, je pense que dans l'esprit de certains dirigeants nantais, de certaines élites nantaises, il restait cette idée de dire on préfère ne pas être à trop assimilé à la Bretagne parce que ça reste un peu plouc. Et que même dans l'esprit donc des élites bretonnes, à un moment donné, on a voulu effacer le côté breton, parce que globalement, ça a été méprisé. Voilà. Donc il y a quand même cette ambivalence qui fait que même en Bretagne, à un moment donné, nous-mêmes, j'ai envie de dire, on s'est considérés comme des ploucs.
Est-ce que tout ça n'est pas renforcé aussi par le cinéma? Alors, je sais que vous aimez bien Jean-Pierre Mariel, par exemple. Vous regardez les films de Jean-Pierre Mariel, vous voyez le représentant de commerce qui va chez les ploucs et il se fait la petite servante dans les hôtels. Voilà, c'est un peu cette image un peu caricaturale. Elle a été renforcée par la culture, par le cinéma.
Bien sûr, je pense la Bretagne a été globalement assez mal servie par le cinéma. Moi, je comprends pas très bien pourquoi il n'y a pas eu plus de grands films sur la Bretagne et sur les Bretons. Ça viendra sans doute, mais c'est vrai que et ce que vous dites, enfin, je n'ai vu que la bande-annonce du dernier film là qui s'appelle Plancha. Je sais pas si vous avez vu, avec Lambert Wilson, avec Guillaume de Tonquédec qui est pourtant breton, et toute une flopée d'acteurs. Mon Dieu, ça a l'air d'être une succession pour le coup de clichés sur la Bretagne. C'est-à-dire que en 1 minute 30 de bande-annonce, on a la pluie, le ciré jaune, les bols à oreilles et les 2-3 blagues vaseuses sur les Bretons et l'alcoolisme. C'est-à-dire que là, c'est un film qui vient de sortir. Là, en 2022, le cinéma y est encore, vous voyez, dans cette avalanche de clichés, donc dans ce qui est censé être une comédie et de faire rire tout le monde. Ça m'a l'air vraiment très mal parti. Voilà. Donc, effectivement, je pense que la Bretagne a été assez mal servie par le cinéma. L'autre jour, je cherchais, par exemple, est-ce qu'il y a eu des films où on entend la langue bretonne? Après tout, est-ce qu'il y a déjà eu des films où on entend parler breton? Et j'ai beau me creuser la tête, j'en vois pas beaucoup. Même Claude Chabrol, quand il a tourné Le Cheval d'Orgueil, il l'a fait en français. Donc voilà. Donc, je suis d'accord avec vous. Le cinéma n'a pas été trop un allié dans cette histoire.
Alors après, pour aller à l'encontre de ce que l'on peut dire aussi, depuis toujours, en destination de vacances, la Bretagne, c'est chic. Dans les années 60, 70, 80, les familles élégantes parisiennes, de Paris-Ouest, versaillaises, disent « on va en vacances en Bretagne ». Et justement, on entendait dire « la Côte d'Azur, c'est plouc ». Ça va aussi à l'inverse dans cette image. Qu'en pensez-vous?
Ben, parce que là, je remonterai même à plus loin. Vous savez, les peintres à Pont-Aven, il y a une espèce de
la Bretagne, aussi. C'est chic. Voilà. Oui.
La Bretagne, en tout cas, c'est pittoresque. Et la Bretagne, c'est authentique. C'est-à-dire quand on veut voilà un retour à aux traditions, voilà quelque chose qu'on voit à tort ou à raison d'un peu comme un peu préservé, un peu différent de ce qu'on peut vivre dans des grands centres urbains, on pense à la Bretagne, c'est vrai. Donc c'est ambivalent, c'est-à-dire que à la fois on aime bien parce que c'est pittoresque, folklorique, c'est-à-dire que c'est différent de ce qu'on vit. Mais c'est bien pour les vacances, mais enfin, très honnêtement, on peut pas y vivre quand même. Et à la fois, aujourd'hui, on pourrait quand même penser que bah il y a quand même un retour de ces choses-là, de se dire bah qu'en fait c'est pas si mal une région un peu préservée, c'est pas si mal une région qui est restée un peu différente des autres, qui a conservé une identité, parce qu'après tout quand on va voyager c'est pour vivre autre chose de ce qu'on vit au quotidien. Donc ce côté pittoresque voilà qui a pu être vu un peu négativement, aujourd'hui je dirais qu'il est en train de devenir plus positif effectivement, et vous avez toutes les projections démographiques montrent que la Bretagne va devenir très très attractive dans les temps
à venir.
Elle l'est déjà et ça va s'amplifier dans le... On a une interview de Jean-Yves Le Drian et Jean-Yves Le Drian nous disait c'est un des grands défis auxquels la Bretagne va devoir faire face dans les années à venir, c'est l'afflux massif de population avec ce que ça veut dire en termes de crise du logement, d'emploi, de transport, etc.
Et tout le débat sur les résidences secondaires, le prix de l'immobilier.
Débat, bien sûr, bien sûr. Ça montre bien que la Bretagne aujourd'hui est attractive et je pense qu'elle l'est sur ce qui était des clichés autrefois, sur ce qui était vu comme négativement autrefois. Voilà, c'est devenu presque une force.
Pourtant, j'allais dire, et pourtant, c'est en Bretagne, par exemple, quand vous prenez les grands capitaines d'industrie, les grands entrepreneurs, quand vous faites une liste des cinq plus grands Français, je vais écarter Xavier Niel, Bernard Arnault, on a quand même Bolloré, on a quand même la famille Pinault, c'est en Bretagne où les réseaux de télécommunications ont été le plus développés, où on a eu le plus d'ingénieurs, c'est pas nouveau ça.
Non, mais regardez dans le cas de Bolloré ou de Pinault que vous citez, ce n'est pas en Bretagne qu'ils ont bâti leur empire, ils sont partis ailleurs, ils sont partis ailleurs et c'est un peu le drame de la Bretagne quand même quelque part, c'est que bien souvent ces élites elles sont parties et ça remonte pas à... on pourrait remonter aux invasions vikings et c'est toujours un petit peu la même histoire. Souvent quand même les Bretons pour réussir ils sont partis et on peut peut-être estimer qu'il est temps qu'aujourd'hui ils reviennent ou en tout cas qu'ils restent effectivement.
Eh oui. Alors, Plouc, des clichés agaçants et idées reçues sur la Bretagne et les Bretons. Il y a les idées reçues, puis il y a les clichés qui sont agaçants. Comme, par exemple, vous faites tout, hein. Par exemple, ce sont des alcooliques.
Oui, alors ça, c'est évidemment, c'est un des, je pense que c'est une des idées reçues qui vient tout de suite assez rapidement en disant, bah, Breton, ça picole. Alors, comme souvent, il y a quand même un fond de, dans tous ces clichés, ce que j'ai voulu montrer, c'est que ça vient pas de nulle part. Il y a quand même souvent un fond, soit de vérité historique, mais qui a bien changé, c'est une simplification. C'est-à-dire que, en Bretagne, effectivement, il y a un rapport particulier à l'alcool. On le voit sur pas mal de choses, mais notamment on a un rapport assez festif à l'alcool. C'est vrai qu'ici, en soirée, les gens peuvent boire beaucoup et en tout cas peuvent le dire sans honte. Et ça remonte à loin, effectivement, on a des témoignages, des pardons au 19e où les hommes, même les très jeunes hommes, boivent beaucoup. Maintenant, quand on regarde la consommation quotidienne d'alcool, on est loin d'être les premiers. Hein. C'est d'autres régions de France qui sont c'est l'Occitanie en fait là où on répond le plus qu'on boit de l'alcool tous les jours. Donc non, les Bretons ne sont pas ceux qui boivent le plus d'alcool. Par contre, ils ont sans doute un alcool festif plus marqué qu'ailleurs. Et c'est pas pour autant que c'est bien, hein, parce qu'on est aussi quand même dans
Vous allez dans des soirées parisiennes très chic, dans des hauts milieux, ça picole aussi beaucoup, ça, hein.
Voilà. Oui, bien sûr. Oui, c'est un cliché parce que peut-être aussi parce que nous ce qu'on questionne c'est aussi ces enquêtes de santé publique qui évaluent le degré d'alcoolisation des gens. On demande aux gens, en fait, c'est des enquêtes déclaratives, c'est-à-dire qu'on demande aux gens combien buvez-vous par jour, combien de verres, combien de fois par semaine, voilà. Et il nous semble, et les historiens et les spécialistes de la question nous l'accordent, qu'en Bretagne, il n'y a pas de honte par rapport à cette consommation, c'est-à-dire qu'on va répondre véritablement. Et c'est sans doute pas le cas ailleurs, c'est-à-dire que dans vos soirées parisiennes, à mon avis, si vous posez la question, on vous dira que non, on boit pas beaucoup, etc., voilà. Alors qu'en réalité, sans doute un peu plus. Il y a un rapport sans doute plus libre et décomplexé à l'alcool ici, qui fait qu'on le dit aussi, et que ça fausse un peu les statistiques. C'est comme sur la question du suicide, on fait quelque chose dans le livre sur la question du suicide, parce que quand régulièrement vous voyez ces informations qui sortent, la Bretagne est toujours en tête du triste classement des régions où on se suicide le plus. C'est ici qu'il y aurait le plus fort taux de suicide par habitant, ce qui quand même interroge, c'est particulièrement dramatique, et quand, comme moi, comme nous, on aime la Bretagne et on trouve quand même fait assez bon y vivre, on se dit mince, qu'est-ce qui se passe pour qu'on soit en tête de ce classement. Et quand on interroge les données, en fait, on se rend compte que c'est assez bidon, dans le sens où ces données, elles sont construites, en gros, quand quelqu'un décède, il faut établir un certificat de décès sur lequel on écrit la cause du décès. Et en Bretagne, vous savez, on est des gens assez ordonnés, disciplinés, consciencieux, et les médecins remplissent ces certificats à la perfection, c'est-à-dire qu'ils remplissent et quand c'est un suicide, ils l'écrivent. Dans certaines autres régions, l'Île-de-France en tête, mais la Corse, mais également d'autres, ces certificats de décès sont remplis n'importe comment. Et donc, on se retrouve avec des régions comme l'Île-de-France où il y aurait quasiment pas de suicides, apparemment. Mais il y aurait non plus quasiment pas de morts par overdose quand on regarde. Ben non, il y en a pas, en fait. Et en fait, tout ça, c'est l'idée, c'est qu'il faut se méfier des chiffres et toujours aller voir comment ils sont construits pour les interroger. Et il se trouve que, en réalité, il y a sans doute très peu de chances qu'en Bretagne, on se suicide qu'ailleurs. On se suiciderait sans doute même un peu moins qu'ailleurs.
Et puis, c'est une région où il fait bon vivre, contrairement aux idées reçues. On dit toujours, par exemple, pour ceux qui sont en presqu'île guérandaise, que quand on est à Pornichet, à La Baule ou au Pouliguen, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait un rayon de soleil. Et on le vérifie chaque jour. Je suis sûr que même vous, du côté, vous le vérifiez aussi. Pourtant, c'est toujours l'image de la pluie. Le nombre de Parisiens qui m'ont dit « Allez, en Bretagne, il va pleuvoir tout le temps ». Alors, c'est vrai que depuis l'été 2022, là, ça, tout ça est remis un peu en cause. Hein, voilà.
Bien sûr, bien sûr. La Bretagne a un climat très, très divers déjà au sein de la Bretagne, c'est-à-dire le climat de Brest, de Rostrenin ou de La Baule n'est vraiment, mais vraiment pas du tout le même. Et donc voilà, quand on nous donne la météo nationale, on donne celle de Brest pour la Bretagne, ce qui n'est évidemment pas vrai. Et en plus, comme vous le soulignez très bien, ici on a une variété de temps dans une même journée, on peut avoir les quatre saisons. Donc ça n'apparaît pas dans les bulletins météo. Et puis il pleut, il faut dire, il pleut moins à Rennes, à Nantes, à Lorient ou à Vannes qu'en Normandie ou dans le Nord. Il pleut un tout petit peu plus qu'à Toulouse, mais il pleut plus à Bordeaux que à Nantes ou Rennes ou à Vannes.
Hein. Allez voir Biarritz un peu si on parle de pluie.
Biarritz quand il pleut, mais c'est encore une idée reçue. Et bon, alors par contre, c'est vrai qu'il y a sans doute des écarts de température moins, c'est-à-dire qu'il fait souvent moins froid en hiver et moins chaud en été. Et ça, on peut se demander si c'est pas en train de devenir plutôt un avantage.
C'est ce qui fait aussi le charme de la Bretagne.
Voilà.
Beaucoup de gens.
Et je pense que pour beaucoup de gens qui ont eu bien trop chaud cet été, les 35 degrés que nous, on trouvait insupportables, eux, ça leur semblait génial. Donc, c'est aussi une des raisons qui risque de rendre la Bretagne très attractive. C'est ce malheureux changement climatique qui fait qu'il va faire plus chaud en Bretagne, mais que ça restera toujours bien plus vivable que dans certaines autres régions de France qui vont devenir un enfer. Et les gens vont malheureusement bien finir par s'en rendre compte. Et on va sans doute devoir accueillir de plus en plus de gens. Je ne parlerai pas de réfugiés climatiques, mais en tout cas de gens à la recherche d'été plus clément.
Oui. Enfin, quelqu'un qui vend son appartement à Cannes ou à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour en acheter un à La Baule, on va pas dire que c'est un réfugié climatique quand même. Hein. On est d'accord. Voilà.
On est d'accord.
Dans les idées reçues, alors, les autoroutes sont gratuites grâce à Anne de Bretagne. Beaucoup de gens le pensent. Hein, voilà.
Oui, c'est étonnant. Pourquoi les gens pensent que c'est vrai? Alors tout le monde a constaté que les quatre voies ici, déjà c'est des quatre voies, c'est pas des autoroutes. Et
dire aussi, ça date des bonnets rouges aussi.
Voilà. Oui, alors que bon, c'est encore une autre histoire.
Pas les bonnets rouges d'il y a quelques années, les
bonnets rouges
historiques.
Septième, ouais. Alors en fait, ce qui est vrai, c'est que la Bretagne a eu des privilèges fiscaux pendant longtemps. Pourquoi? Parce que ne jamais oublier que la Bretagne a été un État indépendant qui a été annexé difficilement au Royaume de France. Hein. Ça s'est fait au terme d'une guerre, ça s'est fait au terme de deux mariages, celui d'Anne de Bretagne et celui de... Enfin, trois mariages, parce qu'Anne de Bretagne...
Et vous avez encore des historiens qui vous disent que ça a été une annexion par la force au Parlement de Vannes, hein, qui était encerclé. Donc ça, on va pas remonter jusqu'à là-dessus, parce que là, c'est vraiment une vraie bataille.
Mais en tout cas, voilà, ça a été une annexion qui a été difficile et longue. Donc, pendant un... Encore une, après l'annexion, la Bretagne a conservé un statut d'autonomie. On n'a pas été trop les embêtés, les Bretons, hein. Donc il y avait un certain nombre de privilèges fiscaux qui ont duré jusqu'à la Révolution. Et donc c'est peut-être de là que vient cette idée reçue que ça remonte à Anne de Bretagne, les quatre voies gratuites. Alors que pas du tout, ça remonte aux années, c'est des revendications qui commencent dans les années 50, mais ça aboutit dans les années 60. Comme je vous le disais, la Bretagne est alors une région qui est largement sous-développée par rapport au reste de la France. Les fermes sont moins électrifiées qu'ailleurs, moins d'eau potable, etc. C'est vraiment une région qui a beaucoup de retard. Et il y a un phénomène assez intéressant qui se crée en Bretagne, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement qui se crée qui s'appelle le CELIB, le Comité d'études et de liaison des intérêts bretons, qui regroupe à la fois des universitaires...
Donc, Jean Sévaer a été l'un des présidents du CELIB qu'on connaît bien et puis qui nous écoute, je sais, en plus.
Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique à la Bretagne, c'est-à-dire qu'on trouvait schématiquement des gens de gauche, des gens de droite, des syndicalistes, des patrons, des élus, des universitaires, des associatifs, voilà. Et tout ce beau monde réuni à imaginer ce qui pourrait être ce dont la Bretagne avait besoin, un plan de développement pour la Bretagne. Et dans ce plan, il y avait l'idée de créer des quatre voies, mais des quatre voies qui seraient gratuites et qui correspondraient à la géographie bretonne, c'est-à-dire qu'il y aurait des sorties régulières. Parce que vous savez, la Bretagne a un habitat dispersé. On a un réseau important de petites et de moyennes villes. C'est pas des grandes villes.
C'est pas comme dans le sud de la France, vous avez l'autoroute du sud, vous avez une sortie tous les 50 kilomètres.
Exactement. Ici, c'est tous les 7-8 kilomètres, hein, les sorties sur la quatre voies. Donc, c'est vraiment très 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 régulier. Et ce plan a été accordé à la Bretagne à la suite d'une mobilisation importante à la fois donc de ce Célib, et puis ça correspondait à une époque où c'était un peu agité en Bretagne. Il y avait les paysans d'Alexis Gourvennec qui prenaient d'assaut la sous-préfecture, il y avait le FLP qui faisait un peu voilà, secouer quelques endroits, faire
quelques McDo, oui.
Voilà. Donc le pouvoir a un peu cédé là-dessus et a accordé ce réseau de quatre voies gratuites. Et les Bretons, ils sont très très attachés, parce que vous citiez les bonnets rouges du 17e, mais il y a eu les bonnets rouges d'il y a quelques années. On a évoqué l'idée de faire payer ces quatre voies seulement aux camions. Ben, vous avez vu le résultat. Et autant vous dire que je pense que le pouvoir tentera pas tout de suite de remettre l'idée sur le tapis, ouais.
C'est un très beau livre, celui de Maïwenn Renaudon, Kerzéro a acheté, qui s'appelle Plouc, point d'interrogation, des clichés agaçants et idées reçues sur la Bretagne et les Bretons. C'est édité par le magazine Breton, dont vous êtes la rédactrice en chef adjointe, Maïwenn Renaudon, Kerzéro. Plouc, quel cliché ou idée reçue avez-vous envie de nous faire partager? Je vous ai posé des questions fermées jusqu'à présent, une question plutôt ouverte, voilà.
Alors vous savez, moi j'ai la chance d'avoir été élevée en breton, donc je parle breton couramment et c'est un sujet qui me tient à cœur. D'ailleurs mon précédent livre qui est Navo, c'était vraiment sur la langue bretonne. Et s'il y en a un qui m'agace, c'est l'idée que la langue bretonne serait un patois, que ce serait pas une vraie langue, que c'est quelque chose qui a été parlé vaguement par quelques paysans dans un coin, mais que ça n'a jamais été écrit, puis que c'est vraiment pas une langue de beaucoup de valeur. Je crois vraiment qu'il faut que la langue bretonne mérite, si ce n'est d'être enseignée, évidemment, mais au moins d'être mieux connue, et que tous ceux qui vraiment la rencontrent se rendent compte que c'est une langue très riche, qui a une histoire très ancienne, qui est cousine du gallois et du gaélique, qui a depuis son origine été écrite. Ça n'a pas été qu'une langue de paysans orales, etc. Ça a toujours été une langue qui a aussi été écrite, qui a une riche histoire littéraire également, et qui est vraiment complexe, qui a une grammaire à elle, une syntaxe à elle, et qui introduit vraiment une vision du monde très différente, qui vous permet de comprendre vraiment. Quand on est à Guérande ou aux alentours, quand on parle breton, je vous assure que les noms de dieux résonnent différemment auprès de vous, parce que vous les voyez différemment, parce que vous comprenez ce que ça veut dire pour la plupart d'entre eux. Donc voilà. Donc la langue bretonne est un patois, évidemment que non, elle est une langue aussi prestigieuse que les autres, et elle a juste été plus méprisée et est aujourd'hui plus mal en point.
Vous aviez évoqué à quelques minutes le sous-développement économique de la Bretagne pendant très longtemps. Est-ce que là aussi, il y a des interrogations. Est-ce que ce sous-développement n'a-t-il pas été volontairement mis en place par la France? C'est ce que disent certains, pour affaiblir la Bretagne. Et que si la Bretagne avait été libre, elle se serait développée comme n'importe quel autre, j'allais dire, pays. On va dire comme n'importe quelle autre région.
Oui, c'est Brice Allon, vous savez, qui est un ancien ministre, qui avait dit la Bretagne, c'est un Portugal qui a foiré. En tout cas, la Bretagne a toujours fait peur à l'État central, parce que comme je vous le disais, c'est une province qui a été rattachée tardivement au Royaume de France et qui a toujours gardé une âme un peu rebelle. Hein, et donc, on a... Le pouvoir central l'a toujours vu avec méfiance. Donc, de là à se dire qu'elle n'a pas été favorisée dans son développement, je sais pas, je suis pas assez calée pour vous dire ça. En tout cas, elle a été surveillée comme de l'huile sur le feu, et on a évidemment, on n'a pas fait grand chose pour la valoriser pendant longtemps. Ça, c'est, j'en suis persuadée, effectivement. Et je pense que Elle continue à faire peur dans l'esprit de certains. Il n'y a qu'à voir, dès qu'on évoque, et justement, je parlais de langue bretonne, mais on peut parler, le président du conseil régional récemment, de Bretagne, hein, donc évidemment, ça ne concerne pas la Loire Atlantique, mais bon, a évoqué l'idée d'une certaine forme d'autonomie pour la région. Il trouverait ça plus logique, plus pertinent, plus démocratique, plus efficace que la région puisse décider d'un certain nombre de choses sans devoir en référer toujours au gouvernement central, ce qui se fait dans la plupart des pays d'Europe. Hein. La plupart des pays d'Europe sont des pays fédéraux. Hein. Il y a que les pays centralisés comme la France sont plutôt l'exception. Et ça, ça fait peur tout de suite. On crie au séparatisme, on crie à l'identitarisme, on crie à... Voilà, dans certaines élites, dans certains milieux, il reste une peur très forte de toutes ces identités régionales, pas que la Bretagne. Donc ça, je pense que c'est pas tout à fait fini, cette peur de la Bretagne, de la différence, de cette province un peu qu'on imagine toujours un peu rebelle, à deux doigts du séparatisme, alors que en réalité, évidemment.
Alors c'est même l'inverse, on va peut-être finir là-dessus. Vous évoquez le repli sur soi, par exemple, mais qualifier la Bretagne de rebelle, c'est la Bretagne qui vote historiquement le plus dans le camp du pouvoir, quel qu'il soit. Quand la France est chiracienne, la Bretagne est chiracienne. Quand la France est gaulliste, la Bretagne est gaulliste. Quand la France est mitterrandienne, la Bretagne est mitterrandienne. Quand la France est macroniste, la Bretagne est macroniste, contrairement à plein d'autres régions.
Les Bretons sont assez légalistes, c'est-à-dire que c'est des gens qui, tant que le pouvoir est plutôt juste, mais n'en fait pas trop, tant qu'ils se sentent pas floués, ils sont plutôt légalistes, ils obéissent aux lois, ils sont c'est des gens qui ont un sens aigu de la justice, et effectivement c'est des bons citoyens. C'est aussi ceux qui votent le plus aux élections, les taux de participation sont toujours plus élevés en Bretagne qu'ailleurs. Donc c'est vrai que il y a un côté, pour l'observateur, il y a quand même un côté bizarre, un côté décalé.
C'est aussi
entre ce côté bon élève
qui fréquente le plus les médias, c'est ceux qui lisent le plus de journaux, qui écoutent le plus la radio.
Oui, qui écoutent le plus la radio, qui lisent le plus le journal. Il y a ici en Bretagne, il y a quand même trois quotidiens qui sont d'un niveau que toutes les autres régions nous envient. Hein. Ce sont vraiment des quotidiens de très grande qualité. Mais il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là. Les Bretons sont ceux qui font le mieux le tri des déchets. Voilà. Les Bretons sont aussi ceux qui donnent le plus leur sang. C'est la région qui est toujours en tête du don du sang. Il y a plein d'indices qui montrent que quand même, ce sont des gens qui ont une certaine idée du bien commun et qui sont pas, normalement, qui sont pas du genre à faire des vagues. Sauf si on tape trop fort sur eux. C'est ce qui s'est passé pendant la Révolution, hein, et c'est comme ça qu'on peut expliquer la chouannerie quand même. C'est ce qui s'est passé pour les bonnets rouges, on va dire les deux bonnets rouges. Voilà. Donc effectivement, la Bretagne a quand même un côté bon élève, ce qui rend particulièrement agaçant dans ce cas-là les blocages qu'il y a. Récemment, on peut parler de la loi Molac, qui était une loi que le député Paul Molac a essayé de faire passer à l'Assemblée nationale pour favoriser le développement de l'enseignement bilingue, et qui a été honteusement sabordée à la fois par le Conseil constitutionnel et par que Jean-Michel Blanquer à l'époque n'a pas voulu soutenir. C'est très agaçant parce que les Bretons ne demandent que le respect de leur identité, rien d'autre, que sur tous les autres plans, ils sont bon élèves. Ils sont bons citoyens et on leur refuse encore ça. C'est vrai que c'est très agaçant.
Finalement, c'est un livre, votre livre, Maïwenn Rénaudon-Kerzéro, devrait être acheté par tous ceux qui veulent venir en vacances ou s'installer en Bretagne. C'est le guide d'intégration de celui qui ne connaît pas la Bretagne.
C'est vrai que ça tient. Je suggérerais ça au comité régional du tourisme, qu'ils offrent ça à chaque personne. Non, mais sans rire, c'est vrai que, par contre, l'identité bretonne, il faut le rappeler, je parlais de ces gens qui vont arriver vivre en Bretagne, c'est une identité ouverte, c'est-à-dire qu'elle s'acquiert et que, évidemment, toute personne qui s'installe en Bretagne, si elle s'intéresse à ce qui se passe autour d'elle, si elle écoute les gens et qu'elle comprend la mentalité autour d'elle, elle deviendra bretonne et on devient breton, pas plus difficilement que ça. Il y a un sociologue qui a une belle formule qui s'appelle Ronan Le Quadi, qui dit que être breton, c'est pas le droit du sol. On peut être né ailleurs et se sentir breton. C'est pas le droit du sang. Et on n'a pas besoin d'avoir des parents bretons pour se sentir pour être breton. C'est le droit du cœur. C'est quand on aime la Bretagne qu'on la respecte.
Mais cette formule peut s'appliquer à tous.
À tout le monde.
À tout le monde. Cette formule s'applique à tout le monde, à toutes les régions.
Oui, à toutes les régions, bien sûr, mais c'est bien de le rappeler contre ceux qui estiment que défendre une identité bretonne, c'est forcément avoir une vision fermée des choses et des identités. Non, une identité, ça s'acquiert et ça évolue et ça bouge. Et c'est pour
Bah,
ça que
quand on regarde
l'identité
l'histoire de
bretonne,
la
c'est un petit peu.
planète, elle n'est faite que de d'immigration, d'invasion,
Bien
de
sûr.
mélange. Hein.
De
C'est
mélange, de mélange. Ouais,
l'histoire de la planète. Hein. Voilà.
voilà. Mais voilà, il faut qu'il y ait quand même des continuités, des marqueurs, et ça, ce sont les gens qui arrivent, qui naissent ici, comme disait un illustre Nantais, à chacun l'âge venu, la découverte ou l'ignorance, et voilà, c'est comme ça qu'on devient breton. Un jour, on se rend compte des particularités autour de cette région, et voilà, qu'on peut les acquérir et se sentir concerné et les aimer.
Voilà. Et finalement, la Bretagne, elle s'adopte et elle nous adopte.
Exactement.
Quand vous voyez des... Par exemple, on finit là-dessus. Là, je pense, en vous écoutant à cela, j'ai une conversation un jour avec l'un des fils du président, l'ancien président sénégalais Sédar Senghor, hein, voilà, qui était maire d'une commune en Bretagne. Et
Oui.
il me disait... Il était breton maintenant, dans son sang et dans son âme. Voilà. Et quand vous avez quelqu'un comme Kofi Annan, qui a été maire aussi d'une commune en Bretagne, dans sa gestion quotidienne, j'ai une conversation un jour avec lui. Il était breton.
Bien sûr,
Il
bien
était
sûr.
breton, il n'y avait rien d'autre.
Bien sûr, bien sûr. Et même récemment, j'ai interrogé un écrivain qui s'appelle Mahir Guven, qui est d'origine kurde, mais qui a passé toute son enfance à Nantes, plus précisément à Saint-Sébastien-sur-Loire, et qui a écrit un roman qui s'appelle Les Innocents, paru récemment. Et c'est ce qu'il disait, en fait. Il disait, mais en fait, je me suis rendu compte assez tardivement, mais je me suis rendu compte là que Il m'a fait une métaphore sur le beurre, c'était rigolo. Il me disait, moi qui suis kurde de naissance, je me rendais compte que quand j'allais en Turquie, mais j'aimais pas le beurre, je préférais le beurre salé. Et il me disait, c'est là que je me suis rendu compte qu'on est du pays de son enfance, en fait. Et moi, ben, je suis nantais, je suis breton, et j'ai été acceptée et vue comme telle par les gens d'ici. Donc lui, il en revenait pas parce qu'il disait que c'était quand même particulier à la Bretagne, cette quand même cette de faciliter à intégrer les Bretons qui souhaitaient le devenir.
Merci Méwen Renaudon Kerzéro de nous avoir parlé de votre nouveau livre qui s'appelle Plouc, avec un point d'interrogation, Plouc, avec tous ces clichés agaçants et toutes ces idées reçues sur la Bretagne et les Bretons, évidemment, Loire-Atlantique. Nous sommes en Bretagne.
Mais
Vous
bien
êtes
sûr.
d'accord, hein?
Mais bien
Voilà,
sûr.
nous sommes
Mais
en
bien sûr.
Bretagne.
Pour
Et
ceux qui en
c'est...
doutent, il y a un chapitre dans mon livre là-dessus,
Voilà,
mais
je
ils
sais.
sont de moins en moins nombreux quand
Et c'est
même.
édité par le magazine Breton. Voilà, un livre, une idée
Merci beaucoup.
cadeau à partager qui se lit vraiment facilement, de même dans sa mise en page, la grande question, et puis voilà, tout est bien expliqué. Merci, Mewen, de nous en
Merci
avoir
beaucoup
parlé.
pour votre
Voilà.
invitation. Merci beaucoup.